et plus particulièrement sur les étapes de la vie spirituelle, comment tu es dans l'oraison. Comme je le disais dimanche matin, à la fin de la messe, vous savez, l'évangile de ce dimanche, les apôtres demandent, augmentons-nous la foi. Pour que le Seigneur puisse augmenter en nous la foi, il faut que nous franchissions des étapes de la vie spirituelle. On est souvent plein de bonnes intentions pour se lancer dans la prière, mais très rapidement, on se heurte à certains obstacles. Et donc, le Père Mathieu, qui est prêtre de Notre-Dame de Vie, qui est curé à Malo, qui a déjà prêché un certain nombre de retraites en foyer de charité ou auprès de jeunes, eh bien, va nous aider à comprendre ce qui se passe en nous, pourquoi nous heurtons parfois à certains murs ou à certains déserts. Voilà, je vous laisse la parole.
Bonjour à tous. Si je parle comme ça, ça va? Bonjour à ceux que je connais. Voilà. Très heureux, en tout cas, j'ai bien prêché de l'école d'oraison ici. Peut-être qu'il y en a qui ont fait l'école d'oraison ici. Est-ce que vous pouvez lever la main? Je crois que je me souviens. Il n'y a que des nouveaux. Bon, on va tout reprendre depuis le début. Alors, le problème dans notre vie spirituelle, le problème, c'est raconter une petite histoire. C'est un homme qui fête ses 30 ans de mariage. Donc il vient voir le curé. Et il s'approche du curé et dit: ah, j'ai jamais aimé autant ma femme. J'ai dit: ah bon? Ben, le prêtre dit: bon, ben, il y a le jour du mariage. Oui, mais maintenant, on a réussi à durer. On a réussi à durer. Et le problème, en fait, c'est de durer. On pourrait dire qu'il y a une rencontre amoureuse qui se fait, il y a le premier temps, ils sont beaux, tout le monde il est gentil. Et le problème, c'est que nous ne pouvons avoir réellement de vie spirituelle. Enfin, c'est inévitable dans la vie spirituelle de se lasser, d'être tenté, d'être éprouvé dans la durée. Un peu ce dont je vais vous parler, donc les difficultés. On m'a demandé les difficultés, hein. Je ne vais pas faire les grâces, on ne va pas inviter. Mais aimer, c'est tuer, et c'est pas facile. Et vous connaissez Saint Paul, il donne 6 armes pour lutter. Et il emploie ces expressions. Hein. Il décrit un soldat, donc la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures de l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit. Mais si l'on voit un peu ce qui décrit finalement ce qui est un soldat romain, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a un réel combat. Il y a un réel combat. Voilà, il faut être prêt. C'est pas quelqu'un qui va agresser l'ennemi. Et on pourrait dire, Thérèse de l'Enfant Jésus, les armes, sa principale arme qu'elle a contre le démon. Est-ce que vous savez ce que c'est? Sa principale arme. La fuite. Alors elle raconte cette petite histoire où elle est, vous savez, dans les couvents. Hein. Et il fallait rendre une clé. Rendre une clé à la mère supérieure. Ah, la mère supérieure, c'est important. Et voilà qu'une autre sœur arrive, elle dit: c'est mon office. Donc Thérèse dit: mais non, c'est moi qui l'ai, donc je vais la rendre. Elle toque, ça ne monte pas, et réveille la supérieure qui est en train de dormir. Elle se demande ce qui se passe. L'autre sœur, elle commence à s'acheter: non, mais vous rendez compte, sœur Thérèse. Et Thérèse dit: et voilà que ce fut ma première victoire, je m'enfuyais. Pourquoi? Parce qu'évidemment, elle a envie de répondre, elle a envie de dire: et on se justifie. Le premier moyen, c'est la fuite. y a cette indication à Jésus, il n'arrête pas d'en parler, veillez pour ne pas entrer en tentation. Veillez. Et voyez, ce soldat, ce n'est pas quelqu'un qui va au feu de l'ennemi, mais c'est quelqu'un qui est bien habillé, qui a tout ce qu'il lui faut, et il est en état de veille. Et profondément, le combat spirituel, c'est cette veille du cœur. Cette veille où je dis, ah, attention, je suis en train de faire un pas de côté. Attention, cette veille. Voilà, nous prenons, sans la prière, il n'y a pas de bon combat qui puisse être mené. Sans la prière, sans la prière régulière, il n'y a pas de bon combat qui puisse être mené. Dans notre expérience de prêtre, on sait bien, c'est toujours humiliant, enfin en tout cas pour moi, de me rendre compte qu'il y a des œuvres que je mène sans prier. Ou du moins en disant, ah oui, on a prié en général, quoi. Et puis de me rendre compte qu'en fait, quand on prie réellement pour quelque chose, ben, c'est complètement différent. C'est complètement différent. Les premières difficultés. Donc nous commençons la livraison, nous commençons éventuellement, voilà, nous avons des grâces extraordinaires, voilà, il y a un curé qui a mené, on a été évangélisé dans la rue, on a fait des rencontres, mais incroyables, vous voyez Satan tomber comme un éclair, vraiment, et puis, ah, il fait des homélies. Ça me met dans une joie, mais extraordinaire. Et puis, j'ai rencontré un paroissien, plusieurs paroissiens qui ont fait partie de, comment on appelle ça, des fraternités. Waouh ! On a pu vraiment échanger pour la première fois de ma vie. J'ai vraiment pu dire ce que j'avais souffert. Et il faut pas, voilà, bien des choses, en fait, au début de notre vie spirituelle, bien des choses humaines sont encore mêlées à ce qui peut correspondre à notre tempérament, à l'élan donné par un tiers, par exemple le curé de la paroisse, ou encore à un certain enthousiasme. Ah, on était tous ensemble, vous savez, c'est déjà, on était tous ensemble à cet endroit. Niveau profondeur, j'y ai dit, niveau profondeur. On était tous ensemble, mon père. Et qu'est-ce que tu as vécu? On était tous ensemble. D'accord. Et vous sentez qu'il y a des choses encore bien humaines qui se mélangent là. Et la première chose, ça va être, en fait, de plonger réellement dans la parole de Dieu. Le premier lieu, pour moi, le premier combat, c'est, vous savez, c'est ce que dit saint Paul, vous avez reçu la parole de Dieu pour ce qu'est. Non pas une parole d'homme, mais une parole qui vient de Dieu. Et en fait, c'est pas possible. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas à quoi elle concerne notre vie. C'est parfois même absurde. C'est-à-dire que nous avons eu un élan, nous avons notre tempérament, nous a conduit vers ceci, par cela, etc. Et pourtant, fréquenter la parole de Dieu, c'est un des premiers lieux qui est difficile. Et vous savez, c'est comme la communication dans un couple. Au début, le mari propose le début du repas et la femme devine la suite. Et inversement, elle comprend tout ce que je suis. Il comprend tout ce que je pense. Deuxième étape. Mais comment ça se fait qu'il n'a pas compris? Pourtant, c'était évident. Et donc le couple va devoir apprendre à communiquer, en fait. À comprendre que l'autre est différent. Et de la même manière, nous entrons dans une parole qui n'est plus seulement une somme de valeurs, n'est plus une parole qu'on a entendue quand nous étions petits et qui, vous savez, c'est un peu ces images d'Épinal, on voit Zachée dans l'arbre. Et il va entrer dans la parole de Dieu. Dire en fait, cette parole, quand on la médite à la paix. Nombre de mains sur une classe de 30 ou 30. Qui fait la paix? Et de la même manière, est-ce que vous voulez aimer tout le monde? Est-ce que vous voulez aimer vos ennemis? En fait, la parole de Dieu, elle va nous faire passer une étape spirituelle, en fait, toutes les étapes spirituelles. Mais la première étape, c'est de vraiment se mettre à l'écoute d'une vérité qui nous dépasse, qui va au-delà de ma perception première. Le royaume humain, terrestre, même que je voudrais, n'est pas le même que celui que Dieu veut mettre en place dans ma vie. Ce n'est pas la même chose. Et si je ne sens pas ce décalage, si je ne suis pas remué par la parole de Dieu, si la parole de Dieu ne me dérange pas, il y a un problème. Et de fait, quand je la laisse descendre, eh bien, elle va me permettre d'avancer. Alors voilà, nous avançons dans notre vie spirituelle et nous avons alors une vie spirituelle. Nous mettons en place l'adoration, tous les jours un petit peu, ou une fois par semaine, un long temps. On prie, on est fidèle, même si parfois nous nous ennuyons, nous allons à la messe. Bref, nous avons mis Dieu dans notre vie. Magnifique. Magnifique. C'est un bon début. On dira, j'ai employé un terme technique, mais c'est juste pour. On pourrait dire que Dieu intervient par le secours général dans notre vie. C'est comme si on pourrait dire, si vous avez suivi jusqu'à présent le tronc commun. Voilà. Vous avez mis les choses dans votre vie, vous avez suivi le tronc commun, c'est bien. C'est même très bien. Je vous donne de vous des bons chrétiens. C'est le Père Marie-Eugène, fondateur de notre âme de vie, qui dit ça déjà. Et Thérèse d'Avila aura des mots encore plus beaux et plus forts. C'est déjà, ce n'est pas une petite épreuve que de mettre cela en place dans sa vie. Et nous savons combien nous avons à lutter pour parfois venir à la messe le dimanche. Ou si c'est pas pour venir à la messe le dimanche, pour en tout cas prier tous les jours, etc. etc. Mais, quand nous sommes fidèles, nous confessons, si pas régulièrement, au moins pour les grandes fêtes, etc. Bref, nous avons mis Dieu dans notre vie. Nous comprenons comment Dieu nous parle, nous regardons avec compassion les plus pauvres. Et nous persévérons dans les moments où nous sommes un peu plus faibles. Thérèse d'Avila dira que ce moment de notre vie spirituelle prendra l'image de. Alors, au tout début, vous savez, ça demande beaucoup d'efforts. Pourquoi? Parce que on va nous-mêmes tirer l'eau du puits. Pour avoir l'eau de la vie spirituelle, donc on jette un seau, puis après, il faut tirer le seau. C'est dur, il faut beaucoup de force. Et c'est pour ça que beaucoup arrêtent. C'est que mettre Dieu dans sa vie, c'est pas simple. C'est beaucoup d'efforts et c'est pour cela que Thérèse d'Avila, entre guillemets, félicite amplement, largement tous ceux qui sont passés par là. C'est beaucoup de choses qui sont décrites d'ailleurs dans beaucoup de livres. De spiritualité. Mais ce que je voudrais vous parler plus particulièrement ce soir, c'est de la conversion, de le renversement qui va se passer, qui va s'opérer et auquel on est appelé. On est appelé à passer de mettre Dieu dans sa vie, le secours général, à un secours particulier. Dieu est la source de toute notre vie. J'ai mis Dieu dans ma vie, dans des belles petites cases. De 8h à 9h, ça va. Mais après, tu restes un peu tranquille. Hein. Enfin, je me débrouille. Là, je sais faire. Là, c'est mon métier. Je gère. On gère des choses. Et on n'a pas besoin de Dieu. Hein. Enfin, si. Vous savez, c'est dans une paroisse, le prêtre qui dit Seigneur, J'ai eu une très bonne idée pour toi. Est-ce que tu peux la bénir ?» Et nous-mêmes, « Ah, Seigneur, donc, j'ai un projet de vie, j'imagine que tu es d'accord. Partons du principe que tu es d'accord avec ce que je pense. » Donc, j'ai quand même appelé Dieu, il est dans ma vie, mais il va falloir passer. Je me souviens d'une fille qui était revenue terre sainte comme ça, et qui faisait ce témoignage, c'était assez touchant, bouleversant. Elle disait, mais c'est d'elle que je tiens cette phrase. Hein. Elle dit, ben voilà, je me suis rendu compte que j'avais mis Dieu dans ma vie, mais maintenant, je veux que Dieu soit toute ma vie. Elle n'est pas devenue bonne sœur. C'est pas un truc de curé de bonne sœur. C'est votre grâce baptismale. C'est votre baptême qui le réclame. Mais c'est pas ça. C'est un bouleversement. C'est un bouleversement et un bouleversement qui va prendre deux, ce qu'on appelle des purifications, la purification des sens et la purification de l'esprit. Alors, pour ceux qui connaissent un peu, c'est les quatrièmes et sixièmes demeures dans la vie spirituelle décrites par Thérèse d'Avila et saint Jean d'Aquin. Nous passons d'un moment où j'ai des initiatives que je propose à Dieu, à, en fait, Dieu a un projet pour moi. Le problème, c'est que, à ce moment-là, j'entre dans l'inconnu. Je ne sais pas où je veux. Puisque ce n'est plus moi qui raisonne et qui, d'une manière, j'ai des repères humains, vous voyez. Quand c'est moi qui mets Dieu dans ma vie, j'ai mes repères, j'ai mon expérience. Donc je sais un peu où je vais, facile. Enfin, facile. Manière de parler. Mais si c'est Dieu qui dirige ma vie, où vas-tu m'emmener? Vous savez, c'est dans la prière de notre Père. Notre Père, que je suis, que je sois fait, que je m'attache comme le ciel. Si, j'ai vraiment envie que ta volonté soit faite, si elle correspond à ce que je pense. Mais j'avais, en fait, à ce moment-là, des preuves bien sensibles qui étaient présentes à mes côtés. Je lui ai prouvé, même si évidemment j'ai expérimenté ma faiblesse, que moi aussi, je désirais lui être fidèle. Vous voyez, dans la première phase, on a vraiment prouvé à Dieu qu'on voulait lui être fidèle. C'est nous qui lui avons prouvé. J'ai mis Dieu dans ma vie. Voilà, je vais à la messe, je fais partie d'une équipe Notre-Dame, je fais des fraternités paroissiales, etc. J'ai une vraie relation à Dieu. Mais là, j'entre dans l'inconnu. Je décide en tout de me laisser faire par Dieu. Dans le Carmel, on va parler d'une passivité active. Je me laisse faire. Vous vous souvenez de la seconde lecture ce dimanche de saint Paul, ravive en toi le don gratuit de Dieu. Donc il y a une activité, ravive, mais d'un don que tu as déjà reçu, de l'œuvre en toi de Dieu qui se fait. Alors, le problème, c'est que j'aimais bien ma petite pirangée. J'étais en conformité avec ce que demande l'Église, on pourrait dire ça. Mais le but, et c'est ça qui est compliqué, c'est que Dieu va harmoniser, unifier toutes nos puissances humaines et spirituelles. Et mais, en fait, par le monde. C'est-à-dire que je vais être un peu, désorienté, parce que toute ma sensibilité, toute mon intelligence et ma volonté, eh bien, elles vont trouver en Dieu leur nourriture petit à petit. Et le problème de notre sensibilité, c'est que, avant elle était nourrie, je sentais Dieu, je comprenais un certain nombre de choses, je pouvais même mesurer un peu l'efficacité de. Et je vais entrer dans une nuit. Dans une nuit d'essence. Souvent, ça va être des petites nuits, puis parfois. pas, tiens, je suis rentré dans la quatrième demeure. Vous voyez, c'est, en fait, ça se fait petit à petit. Thérèse d'Avila a dit que notre vie spirituelle n'est pas à la manière d'un enfant qui grandit, qui devient adulte et qui devient une personne jeune depuis plus longtemps que les autres. C'est nous faisons des va-et-vient, des allers-retours. Donc il va y avoir des nuits, et comment je peux faire pour en fait, vivre ce moment où j'ai l'impression que Dieu ne me parle plus. Je ne suis plus, je suis dans une sécheresse, je n'ai plus de goût pour ce que je vis, pour ce que je fais, ou comment je pourrais le dire encore autrement, c'est voilà, une certaine obscurité. En fait, c'est le caractère propre de la foi. C'est le caractère propre de la foi d'être certaine et obscure. Certaine, parce que la foi nous est donnée par Dieu. Et s'il y a bien un mot sur lequel je peux m'appuyer, c'est Dieu. Et c'est, quand je dis je crois de tout mon cœur, c'est certain. Dieu agit en moi. Dieu établit, lui, une manière certaine de contact. Le problème, c'est que c'est comme quand vous regardez le soleil dans les yeux, vous êtes aveugle. C'est trop de lumière. Si bien que ces temps d'obscurité, c'est pas que vous allez mal, c'est pas que vous êtes mauvais, c'est souvent parce qu'il y a trop de lumière. Il va falloir habituer ses sens à cette nouvelle luminosité. Mais avant, je pouvais me satisfaire de petites lumières qui éclairaient, entre guillemets, ma vie. Des lumières qui étaient ces temps de lumière que je prenais, qui étaient ces rencontres, etc. Mais le Seigneur me faisant avancer, dit, allez, avance plus loin. Allez, t'es bien dans l'église, c'est bien, tu es bien installé. Maintenant, sors dehors. Va voir la lumière du soleil, le vrai Dieu. Va le rencontrer. Qu'est-ce qui se passe? Premier sentiment d'échec en réalité, c'est que je ne vois plus. En fait, mes sens, mon intelligence, ma volonté vont devoir trouver, se réadapter à cette. Ça ne veut pas dire que Dieu arrête et va arrêter de nous parler. C'est qu'il va nous parler d'une manière plus profonde et autrement. On va développer notre sensibilité intérieure. Notre intelligence va être plus fine pour aller chercher, non pas, pour dire, dans la récolte, les petites une graine par-ci, une graine par-là, mais c'est des grappes entières que le Seigneur veut nous donner. Vous voyez? Et ben, ce passage, on a surtout l'impression d'être dans le noir. Pensez aux missionnaires qui se sont évangélisés au Groenland. Ils ont fait quoi? Pendant 10 ans. 10 ans, vous imaginez, 10 ans. Ils ont habité le Groenland, ils ont cherché des Inuits. Pendant 10 ans, ils ne les ont pas trouvés. Waouh! Ça, c'est la foi obscure, hein? Ils savaient qu'ils existaient, mais ils ne les ont pas rencontrés. Et d'une certaine manière, il y a quand même quelque chose de ça qui fait que notre recherche, en fait, va se transformer. Elle va être plus fine. Qu'est-ce qu'ils ont développé pendant ces 10 ans? Les techniques pour aller sur la neige, ils vont comprendre un certain nombre de. En fait, ils vont apprendre à vivre dans ce milieu-là, dans ce contexte-là. Et ce qui va en fait permettre que, au bout des 10 ans, le jour de cette rencontre, les Inuits leur diront, mais ça doit être vraiment quelque chose d'important pour que vous attendiez aussi longtemps pour nous rencontrer. Alors oui, nous voulons bien vous écouter. Mais aussi parce qu'ils avaient vu qu'ils avaient, c'était adapté à ce climat, c'est, avant même de connaître ces gens qui les avaient aimés. Il y a un désir qui va se creuser, un désir d'absolu, un désir de le rencontrer plus fort, plus grand. Nos sens, notre intelligence, notre volonté, elle va devenir plus fine. que quand on est dans dans l'obscurité, qu'on est un peu désorienté par, il y a la tentation d'arrêter. Oh, ça fait trois fois que je me prends des mots à l'évangélisation. Le père de la paroisse ne m'a même pas regardé, même pas remercié. Super. Merci. Hein. Vous voyez, fait-on. Ben oui, il y a une obscurité, ça ne veut pas dire qu'il y a de l'obscurité. C'est beau, on fait un festival d'évangélisation à Wallon, et alors il y a 10 jours, il y a une dame qui s'approche et qui me dit, vous savez, nous on compte plein de gens, voilà, c'est assez pauvre en réalité, hein. Et vous connaissez peut-être pour beaucoup. Et puis elle vient, puis elle dit, elle joue avec ses enfants, puis c'était une messe de famille qui est tout seul, je vais la voir. Bonjour, vous êtes nouvelle, je ne sais pas comment commencer. Bon, bref. Non, mais en fait, je suis venu cet été et on m'a donné un chapelet. Bon, très bien, super. Mais en fait, ça veut dire que j'ai le droit d'entrer dans l'église. Oui, peut-être que cette rencontre, elle a été, ben voilà, j'ai donné un chapelet. Voilà. Et en fait, il y a une lumière, il y a une parole de salut qui s'ouvre. Et on le verra après. On verra après. Comment on passe de aimer sa vie au service du Seigneur à aimer Dieu qui veut transformer notre vie. C'est ce que le père Louis Lallemand, le père jésuite, appelle la seconde conversion. La première consiste à se dévouer au service de Dieu, la seconde à se donner pleinement à lui, qui ne veut nous posséder que pour nous affranchir de nos misères. Nous passons des années entières et souvent toute la vie à marchander si nous nous donnerons tout à Dieu. Nous ne pouvons nous résoudre à faire le sacrifice entier. Nous combattons contre Dieu des années entières et nous résistons au mouvement de sa grâce qui nous pousse intérieurement à quitter une partie de nos misères en quittant les vains amusements nous arrête en nous donnant et en nous donnant à lui sans réserve et sans remise, mais accablé de notre âme propre, aveuglé de notre ignorance, retenu par les fausses craintes, nous n'osons pas franchir le pas. De peur d'être misérables, nous demeurons toujours misérables. Au lieu de nous donner pleinement à Dieu, qui ne veut nous posséder, que pour nous affranchir de nos misères. Vous sentez qu'il y a un mal dans l'absolu, hein. Sur, il y en a qui disent, oh là là, où est-ce qu'il veut nous emmener le Père? C'est étonnant dans la vie de. Il décrit un peu la vie du noviciat, vous savez, le noviciat, la place, des trucs, etc. Qui parle, mais. On a un élan, on a une générosité, puis quand on arrive dans une paroisse où il y a des jeunes, on monte de groupe de jeunes, et les jeunes nous suivent. Et le problème, c'est que c'est lié encore à, vous voyez, notre tempérament, on est encore dans l'humain. Il y a encore quelque chose de très humain là-dedans. Et quand on vit, on apprend à vivre en harmonie, non pas seulement avec l'humain, évidemment qu'on va garder l'humain, on va le retrouver d'ailleurs d'une autre manière, plus grande, l'unification de toute la personne humaine, l'unité de toute la personne humaine. Mais on va apprendre à vivre avec le surnaturel. Voilà. Et en fait, il y a une très grande pauvreté. il y a une très grande pauvreté parce que nous ne faisons plus les choses pour Dieu, mais nous servons Dieu sans cesse. Montre-moi comment je dois faire, je ne sais plus. Et c'est notamment à ce moment-là où c'est assez compliqué en fait. Je parle de la vie du prêtre parce que c'est celle que je connais le mieux, mais c'est la vie aussi de la vôtre. C'est que comment je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? J'ai plus de moyens. J'ai tout essayé. Et là, le Seigneur, il nous transforme pour dire, mais est-ce que tu veux bien que je prête? Et on se trouve dans une pauvreté. Dans une pauvreté. Parce qu'en fait, on est obligé de compter que sur lui. C'est Dieu qui est au principe de toute ma vie. Et du coup, ben, je suis obligé de l'appeler. Excellent. Je commence à vraiment dépendre de lui. Puisque je l'appelle, puisque j'y arrive pas. L'échec. Mes échecs. Je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à avoir une bonne parole pour évangéliser. Et bien, si je m'appuie trop sur mes trucs humains, je n'arrive pas à prier. Je n'arrive pas à faire ma prière. Ah oui, c'est normal, tu poses tout le temps. Et à un moment, il faut le laisser, quoi. Hein. Faut qu'il prenne un peu de place. Ouais, mais ça fait un vide. C'est normal. Je me sens tout seul. Je cause tout seul. Quand même. Déjà, arrête de causer. Lis la parole de Dieu, continue. Mais c'est long et je m'ennuie. À la bonne heure. Excellent, tu t'ennuies? Excellent. Tu es sur la bonne voie. Si on ne s'ennuie pas à un moment dans sa prière, c'est que on n'a pas encore vraiment commencé à prier. Pourquoi? Parce qu'il faut se mettre à l'écoute. Il faut être pauvre de Dieu, il faut être mendiant. C'est lui qui va me donner. Thérèse, elle est magnifique, Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle dit, mais elle rentre à 15 ans dans la vie religieuse, Thérèse de l'Enfant Jésus. Et puis, à 20 ans, elle est nommée maîtresse et novice. Enfin, maîtresse et novice, mais c'était la prieure qui était maîtresse et novice, mais vu qu'elle ne s'occupait pas des novices, elle avait nommé Thérèse en seconde. Du coup, c'est Thérèse qui faisait tout, sans avoir l'autre. Bref. Et moi, maîtresse des novices avec des filles qui sont plus âgées que moi, qui ont plus de tempérament que moi, j'y arriverai pas. La seule chose que je peux faire, c'est d'ouvrir les mains libres pour que vous mettiez vous-même au Seigneur la nourriture dont ils auront besoin. Ah, ben oui, c'est excellent ça. Ben, on devient, enfin excusez-moi, mais on est dépouillé. On est dépouillé. C'est vraiment le Seigneur qu'on va appeler, qu'on va demander, et on voit bien que ça va changer notre prière. Parce que c'est plus seulement une prière structurée qu'on va mettre au service de Dieu, de notre âme, qui nous correspond, c'est qu'on va entrer dans l'inconnu. Je m'ennuie. Je ne sais plus quoi faire. Évidemment qu'il faut continuer à nourrir son oraison, prier avec les prières qui nous parlent, etc. Évidemment qu'il faut faire tout ce qu'on a pensé à cette phrase. Ravive en toi le don gratuit de Dieu. Il y a toujours une part qui vient de nous. Et en même temps, cette part qui vient de nous, c'est surtout pour être mendiant de la grâce de Dieu. Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux de ma journée? Viens, Esprit Saint. Et petit à petit, notre oreille va s'affiner. Elle va percevoir certains bruits. Comme dirait Père Mariage, parfois le Seigneur nous suggère. Il nous suggère ce que nous pourrions faire de bon et de bien. Mais tout doucement. Et notre oreille va s'affiner. Vous savez, j'ai vécu avec quand j'étais en train de vivre avec des Chinois. Et alors, ils ont des sons. Donc, je vais vous donner. Ça va être Emma, c'est comme ça. Et c'est, en fait, c'est le même mot pour dire le mot cochon que pour dire le mot évêque. Vaut mieux pas se planter. Et c'est marrant parce que au début, moi, je captais absolument rien. C'est que quand il parle à toute vitesse. Puis ils m'ont introduit, c'est vachement intéressant. Et petite oreille, peut-être notre oreille, elle apprend, elle affine. Et de la même manière, ce moment de désert, ce moment d'obscurité par lequel nous passons, nous sommes déboussolés. Je n'arrive plus à prier comme avant, je n'arrive plus à méditer comme avant, je n'arrive plus à mettre en place ma vie de prière comme avant, ou un certain nombre de choses comme ça. Pourtant, je garde le désir, important ça, je garde le désir, je garde le. Et le Seigneur, il m'invite à travers cette nuit à être transformé, mais non pas comme j'ai envie, il va m'apprendre. Il va m'apprendre. En un mot, nous entrons progressivement dans une nouvelle phase de notre vie, découvrant à nos dépens que les exigences de la vie religieuse sont impossibles. Seigneur prêtre, pas de problème. Gérer une paroisse, oui. Je crois que j'ai les qualités. Je me suis engagé. Je dois dire que je réussis assez bien. Et puis, le mariage, pareil. Hein. Ça, c'est terrible. Parce que cette obscurité, au contraire, c'est celle qui va nous permettre d'entrer dans une autre, et dit le Père que je citais tout à l'heure, dans une, donc qui est religieux, dans une autre manière d'être chaste, dans une autre manière d'être pauvre, dans une autre manière d'être obéissant, d'être priant, d'être charitable. Nous sommes et nous entrons dans l'expérience de la pauvreté spirituelle. Et alors nous basculons du serviteur à l'ami. La seconde conversion, c'est de basculer de serviteur à ami. De serviteur fidèle, libre, choisi, appelé par le maître, généreux, qui pourrait dire presque sert son Seigneur, voilà, avec une vraie générosité. Et la seconde étape de cette vie spirituelle, c'est d'entrer dans la connaissance du mystère, dans la connaissance du projet, du dessein de miséricorde de Dieu pour le salut du monde. Du dessein de miséricorde de Dieu pour le salut du monde. D'un seul coup, en fait, petit à petit, on entre vraiment dans la manière qu'a Dieu de conduire les choses. Ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est que quand on découvre ça, par exemple, il y a une place pour la pauvreté et pour le pauvre qui est hallucinante. Parce que, en fait, du coup, on est rejoint dans notre pauvreté spirituelle, dans le fait que nous n'y arrivons pas. Ce que je dis, c'est, encore une fois, ça n'empêche pas notre générosité. N'allez pas voir le Père Lionel en disant « Ben, si j'étais dans la préparation, le baptême, mais j'arrête, parce que franchement, je ne sais plus ce que le Seigneur veut, etc. » En fait, c'est petit à petit qu'il y a comme un discernement qui va se faire, une manière de le vivre qui sera différente. Entre guillemets, on est tous capables de faire la préparation, le baptême, on se soucie, on est tous capables. Mais quand on va passer d'une connaissance que l'on donne, d'un savoir-faire, d'un témoignage, donc dimension générale, à une parole de salut pour telle personne, un regard pour celle-ci, et une intention pour celle-là, on est encore dans le schéma général, et en même temps, l'âme, elle s'affine. Elle va pointer exactement pour cette personne là où elle veut la toucher. Et ça, c'est pas marqué dans les bouquins. C'est. Voilà. Et du coup, le problème, c'est qu'on ne sait jamais avant. Et puis ça peut être quelqu'un qu'on connaît depuis des années, le Père Lionel, ça fait 20 ans qu'on se connaît, à peu près. Ça ne rajeunit pas tout ça. Et une manière, c'est celle que je connais en général, je connais bien ses qualités, ce qu'il faut. Et je peux en rester là. Très bien, je connais. Mais que chacune de nos rencontres, ce soit à chaque fois une écoute de l'Esprit Saint. Ça, c'est différent. Alors évidemment, c'est un exercice de l'âme. Hein. Ne pensez pas que du coup, on va intellectualiser la chose. Attention, il faut que je sois attentif à ce que je dois dire pour être docile. Hein. C'est un exercice qui se vit d'abord dans la prière. Pourquoi ? Parce que dans la prière, petit à petit, on va discerner les mouvements de notre âme. Vous voyez, ce qui se passe dans notre âme et la manière dont j'arrive à percevoir, distinguer les élans et les. Voilà, ça va rejaillir dans mes relations naturellement. Entre guillemets, surnaturellement. Mais si je m'arrête dans ma prière, Ah, le Seigneur, arrête de me parler. Mais il n'arrête pas de te parler. C'est que, ah voilà, il y a une connaissance plus profonde à laquelle il t'appelle. Le problème, c'est que plus on entre dans cette intériorité, plus on fait l'expérience de notre misère. Ah oui, c'est pas gay, c'est comme ça. Plus on entre bien dans notre intériorité, plus, voilà, plus on avait vécu une effusion de l'Esprit Saint et on avait vraiment eu le sentiment que Dieu nous avait guéri. Puis il y a des combats qu'on, entre guillemets, qui semblaient lointains. Des choses qu'on avait réussi à tenir, à gagner. Et puis en plongeant dans l'intériorité, qu'est-ce qu'on va découvrir? Oh, mais c'est encore là! On va dire donc, c'est moins très bon, tout ça. Et la première chose quand on entre dans cette phase de la spiritualité, c'est que souvent, donc il y a la nuit, c'est obscur, c'est là, mais on va voir notre pauvreté et notre péché. Et c'est pas bon. Parce que le péché, c'est pas bon. Et on va même voir de plus en plus que notre liberté, elle a renié Dieu. Donc je pensais être arrivé à.
Pour entendre sa parole qui nous permet d'entrer dans une
Parce que quoi? C'est quoi la terre promise? Fondamentalement, c'est quoi la terre promise? C'est une terre sans idole. C'est une terre où, d'une certaine manière, évidemment c'est une terre aussi spirituelle, où nous pouvons adorer Dieu en vérité. C'est d'ailleurs la suite, hein, la Samaritaine, où nous faut-il adorer? Sur ce lieu, en esprit et en vérité. Et de fait, quand nous sommes confrontés à notre pauvreté, notre misère, notre déchéance, eh bien, nous ne pouvons nous appuyer que sur Dieu et sur sa miséricorde, qui du coup, on devient mendiant. Ah, Seigneur, j'ai besoin de toi, viens, je pas. Mais c'est bon, ça. C'est bon, païen. C'est une bonne attitude spirituelle, pas facile. En fait, Dieu veut me faire entrer dans une amitié qui est gratuite. Je suis serviteur et je deviens son ami. Vous sentez la différence? Oui. Il y a un moment où je suis son serviteur, je me mets au service. Il y a une amitié, il y a un face-à-face. Dieu veut, j'ai encore combien de temps? 5 minutes. Parfait. C'est exactement ce que j'allais faire. La connaissance de... C'est un séminariste comme ça qui revient d'une retraite ignatienne. C'est magnifique ce qu'il a dit à la fin de sa retraite. Il dit, en fait, le fruit de cette retraite, qu'est-ce que c'est? C'est, en fait, je suis radicalement incapable de vivre l'Évangile. Excellent. Excellent. C'est Dieu qui va faire en toi. C'est Dieu qui permet de vivre l'Évangile de ça. Donc, c'est bon signe. Une autre personne que j'accompagne vient me voir un jour. En fait, je ne sais pas faire mon besoin. Donc la personne, ça fait 20 ans qu'elle fait oraison, tous les jours, une demi-heure. Elle arrive, oh, je ne sais pas faire oraison. Et tu continues, ouais, mais je ne sais plus faire. C'est bon ça. Tu continues. Alors évidemment, il y a toujours des choses à vérifier. Hein. Est-ce que je voudrais bien mon oraison? Est-ce que c'est au bon moment de la journée? Est-ce que... Vous voyez, il y a des petites choses à vérifier quand même. Il y a un bon bouquin d'un prêtre comme ça. Ça donne des bons titres. Puis, une personne de la communauté d'Emmanuel, vient me voir, je crois que je vais quitter la communauté d'Emmanuel. 30 ans de communauté d'Emmanuel. Ouais. J'ai envie de te dire, prends le temps avant de. Mais non, mais je ressens plus rien pendant la louange. Est-ce que tu te donnes durant cette louange? Non, mais j'ai de me donner. J'ai de vraiment louer Dieu, je me sens bien. Continue. C'est mon signe. C'est pour vous dire que c'est ces moments-là où on ne sait plus, où on est désorienté, le Seigneur est en train de faire une œuvre qui nous dépasse. Encore une fois, il faut mettre toute notre bonne volonté. Chercher Jésus. Faire toujours grandir le désir. Alors je vais finir avec ce texte de Saint Jean de la Croix, il est un peu plus difficile, mais il résume tout ce que j'ai essayé de dire sur ce qu'on appelle la nuit passive des sens. Comme la conduite des commencements dans ce chemin de perfection est vulgaire. Elles frisent beaucoup avec leur amour propre et leur goût sensible, ainsi que nous l'avons déjà donné en eux. Aussi Dieu veut-il les élever peu à peu. Il les sort de cette manière grossière d'aimer, de l'aimer, et le délivre de ce bas exercice des sens et du discours par lequel, avons-nous dit, il cherche une manière si mesquine et si pleine d'accompagnement. Et c'est le gars qui essaie de faire un 100 mètres et qui n'a jamais fait d'exercice. Il a l'impression d'avoir fait un 100 mètres à fond même, il va falloir qu'il s'exerce un peu pour faire 100 mètres avec toutes ses capacités, vous voyez. Je passe un peu. Déjà, ils se sont exercés quelque temps sur le chemin de la vertu. Ils ont persévéré dans la méditation et l'oraison. La saveur et les délices qui s'y ont goûté les ont détachés du monde. Oui, il y a un peu d'avancement. Ils ont obtenu de Dieu quelques forces spirituelles. Mais le jour où ils goûtent le plus de saveur, le plus de saveur et de joie dans ces exercices spirituels, et où ils s'imaginent que le soleil des divines faveurs les illumine davantage, le Seigneur les prive de toute cette splendeur. Il ferme la porte de ses délices. Terminé. Il tarit la source des eaux spirituelles dont il goûtait en lui la suavité. Ça faisait beaucoup dans mon cœur. Le Seigneur les laisse donc dans les ténèbres si profondes qu'ils ne savent plus comment se diriger à l'aide du sens de l'imagination et du discours. Ils sont incapables de méditer comme précédemment.
Bon, j'arrivais à méditer la parole de Dieu, ça me parlait, mais là, j'y arrive plus.
Leur sens intérieur est plongé dans cette nuit et en proie à une telle aridité que non seulement ils ne goûtent plus les choses spirituelles et les exercices de piété, cette douceur et cette consolation où ils mettaient d'ordinaire leur délice et leur joie, mais au contraire, ils n'y trouvent que dégoût et amertume. C'est pour vous dire que si vous êtes dans... Moi, ça m'a fait beaucoup de bien d'entendre ça. C'est-à-dire que j'ai compris qu'il y avait... En fait, le Seigneur me conduisait. C'est pas grave. Et que la lumière allait se refaire, se réallumer à la fin de ce parcours. L'âme ne trouve de joie et de consolation ni dans les choses de Dieu, ni dans les choses créées. Lorsque Dieu en effet introduit l'âme dans cette nuit obscure pour l'amener à la rectité et à la purification de l'appétit sensitif, il ne lui permet en aucune façon de rechercher et de trouver des consolations. Et je vais finir avec une note positive. C'est que profondément, c'est un chemin de lumière. Profondément. C'est que vous êtes éprouvé non pas parce que vous avez de moins en moins de lumière, c'est parce que vous en avez de plus en plus. Et qu'au bout de ce chemin sera affermi dans votre âme des choses, et votre vie sera unifiée d'une manière telle que vous n'auriez pas pu l'imaginer. Elle sera centrée beaucoup plus sur les choses essentielles. Vous allez goûter la parole de Dieu comme jamais dans votre vie. Vous deviendrez, en fait, un disciple missionnaire tel que l'Église en fait. Pourquoi ? Parce que votre seule richesse, ce sera Dieu, et vous en serez convaincu. C'est un temps de question.
Merci beaucoup, Père Mathieu. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai l'impression que j'ai encore un peu le chemin devant moi. C'est bien. Alors, est-ce qu'il y a quelques questions pour quelques éclaircissements sur ce qui a été enseigné, partagé?
Par exemple, le travail s'arrête. projet professionnel devient compliqué. Enfin, c'est lié aussi. Hein. C'est, ça peut durer. Il n'y a pas de durée en fait. Il n'y a pas de durée. Souvent, bon, c'est bon, quand ça dure un peu longtemps, il faut aller voir un prêtre. Non, mais voilà, parce que malheureusement, c'est toujours un peu mélangé. Il y a nos infidélités qui restent. Vous voyez ? Il y a nos infidélités qui restent. Donc, parfois, c'est un peu mélangé. Entre, voilà, ça demande du discernement. Souvent, quand même, c'est voilà, un peu par phase. Après, dans le temps, bah, 40 ans en désert, c'est pas idiot. C'est que, on a fermé notre âme dans le temps et dans ces temps-là. C'est, en fait, c'est très beau. C'est un peu dur, parfois. C'est vrai. Après, parfois, il y a des petites choses qui permettent aussi de délier. Voilà. Il ne faudrait pas prendre une faiblesse pour une nuit spirituelle, par exemple. Ça demande du discernement.
Bonsoir, Père. Moi, j'avais une petite question par rapport à la prière du chapelet. Bien souvent, le chapelet, c'est monotone, puisqu'on récite Je vous salue Marie, après Je vous salue Marie. Et moi, ça m'arrive assez souvent de perdre le fil, continuer à prier, mais malgré tout, perdre le sens de la prière. Et je me demande dans quelle mesure ma prière peut être portée malgré ce manque d'assiduité, de confiance dans la prière.
Il y a ce que je peux mettre en place, par exemple, comme je sais que quand je fais oraison après le repas du midi, souvent, ça va être compliqué de faire oraison. Je vais dormir. Donc il y a des choses humaines à faire attention, à être vigilant. Et puis, Saint Jean de la Croix dit qu'il y a un moment dans notre vie spirituelle, je l'ai cité tout à l'heure, mais très très brièvement, que parfois nous sommes. Ça devient très difficile de méditer. Typiquement, je récitais mon chapelet, donc je récitais les mystères, donc chacun des mystères, mais entre chaque mystère, j'avais à cœur de dire la parole de Dieu. Puis à un moment, ça m'avait épuisé. Et tout simplement, j'avais juste envie de rester en cœur à cœur avec lui. Et Saint Jean de la Croix le décrit très bien, il dit ben voilà, restez en cœur à cœur avec lui. Méditez quand vous en avez besoin et voilà, que le Seigneur, jusqu'à temps que le Seigneur vous élève. Ça ne se fait pas. Après, la troisième chose, c'est la prière, c'est comme un bateau. Il y a un élan, même quand vous coupez le moteur, c'est-à-dire que quand vous avez des distractions ou quand vous partez un peu ailleurs, si vous n'avez pas posé d'acte de volonté contre, vous pouvez estimer que vous êtes encore en train de prier. À partir du moment où vous avez mis tout en œuvre pour prier, on a tous des distractions. Pourquoi ? Parce que la partie haute de notre âme, donc tout ce qui est l'imagination, toutes ces choses qui volent, elle est distincte de notre volonté. Et quand nous prions notre volonté, nous l'orientons non pas vers notre imagination, pense à cette chaise, j'ai orienté mon imagination, ma volonté pour imaginer cette chaise, nous ne l'orientons pas vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. Du coup, l'imagination, elle part en cacahuète. Pourquoi ? Parce que ma volonté, elle est orientée vers le profond, vers Dieu. Je peux tout à fait faire oraison, si je l'avais prié mon chapelet, réellement, avec il n'y a pas un moment où ma volonté elle a été faible, c'est-à-dire que j'ai fait ça un peu sans vraiment m'y mettre, Ma volonté, c'est pas orientée vers un autre lieu. Par contre, mais du coup, mon imagination, et du coup, elle est libre, ma volonté n'attrape plus. Donc, ce qui est important, c'est, entre guillemets, si on peut regarder, quel est mon dernier acte de volonté? Est-ce qu'il était faible? Est-ce qu'il était fervent? Est-ce qu'il a désiré ça? Ou est-ce qu'il était un peu faible? Ou est-ce que j'ai volontairement pris, typiquement, hein, je prends mon portable, je regarde un texto, tiens, de quoi il parle, vous voyez, donc il y a un acte de volonté qui me sort de la prière. Et sinon, c'est important de comprendre que les distractions font partie de notre vie de prière. Parce que, encore une fois, la faculté imaginative, on ne peut pas l'attraper en même temps qu'on attrape notre volonté profonde et qui nous oriente vers nous. Pas possible. Et soit par là, soit par là. Voilà. Ça va?
Dans la même veine, j'ai une question sur la durée, je dirais le rythme de prière. Est-ce qu'il est possible pour quelqu'un de trop prier? Il m'arrive souvent d'avoir cette sensation que si je prie plus que d'habitude, si je vais passer 2-3 heures de prière par jour, j'ai la sensation de justement de plus avoir de sensation, de plus rien vivre de spécial. Et il y a un moment, je me dis, bon, j'ai pas que ça à faire, j'ai envie d'agir en fait. Plus je prie, et moins j'ai envie de prier en fait. Et il y a d'autres moments où, quand j'ai pas prié depuis un moment, je me remets à prier, et là, ça fait quelque chose. J'ai l'impression de prendre une douche alors que je ne suis pas lavé depuis 3 jours en fait. Ça me donne un effet de fraîcheur, et c'est évidemment, c'est plus agréable, j'imagine, d'un niveau sensoriel. Mais est-ce que réellement, chaque personne aurait un temps différent de prière propre?
C'est compliqué parce que chacun de nous a des portes d'entrée différentes, a des responsabilités différentes, a des grâces différentes. Donc c'est vrai que je parle principalement de la prière d'oraison parce que l'Église, en reconnaissant Thérèse d'Avila comme docteur de l'Église, dit du coup de l'oraison que c'est quelque chose qui peut être partagé par tout le commun des fidèles, et en même temps on sent bien que quelqu'un qui a vraiment une grâce de la communauté d'Emmanuel, quelqu'un qui est vraiment du Carmel, quelqu'un qui est bénédictin, quelqu'un qui est dominicain, le temps d'oraison ne sera pas le même, mais excusez-moi de l'expression, les exercices de piété ne seront pas les mêmes. Et c'est là où c'est vraiment une écoute de savoir quelle est ma grâce qui va me permettre d'avoir un discernement. Après, je crois qu'il faut regarder ça dans le temps. Voilà. Si je fais des trucs comme ça, attention de ne pas être fanatique. Et Thérèse d'Avila, elle a emmené une religieuse qui faisait 8 heures, mais qui était dans 8 heures d'oraison par jour, mais qui était dans une espèce elle était incapable d'agir après. Donc, ce que je comprends, c'est que tu es englué dans les. Donc, il faut aussi. La prière, elle fait sortir de soi, quoi. Elle nous fait être réel. Elle nous fait être dans le réel. Et donc, je ne dirais pas ni trop peu, ni trop, ni trop peu. Il faut prier tout le temps. Il faut tout le temps être connecté à Dieu, pas de problème. Par contre, l'exercice particulier de l'oraison du chapelet, de ce que vous voulez, on avance la fatigue, parce que si. Ah.
Une dernière question.
C'est une question en même temps. Je l'ai vécu pendant
qu'il ne me parle plus, ou que, etc. C'est un peu ce que j'essaie d'écrire. C'est pas simple, mais vous savez, c'est comme les parents pendant l'adolescence, hein, comment ils tiennent avec leurs enfants dans l'adolescence. Ouais, parce qu'ils savent que ce sont des gentils hommes et femmes qui. Après, mais en attendant, c'est galère quand même des enfants adolescents. Non, mais la comparaison a ses limites, mais. Il faut bien qu'on soit capable de supporter quelque chose pour Dieu. Il faut nous habituer aussi au divin, et donc du coup à des manières de parler, de dire des choses.
Redonner avec des mots d'aujourd'hui. Voilà, donc
je l'ai conseillé déjà à pas mal de paroissiens, donc je vous le reconseille de façon plus générale. Alors maintenant, je vais donner la parole à Véronique qui va nous dire un petit mot sur l'adoration.
Merci. Bon, c'est tout simplement vous rappeler qu'on a un moyen merveilleux dans la paroisse, un lieu de silence. Comme dit Mathieu, il faut du silence, il faut du temps. Et bien voilà, il y a une chapelle qui vous attend et on se permet toujours de vous dire qu'il y a encore des besoins le lundi matin, le mardi soir à 6h, dans certaines après-midi où les créneaux sont fragiles parce qu'il y a une personne quelquefois en fragilité. Donc moi je me tiens à votre disposition à la sortie. Si vous avez encore une possibilité, n'hésitez pas à le dire. On pourra toujours s'arranger pour que vous puissiez prier vous aussi et vous intégrer dans la grande chaîne. Merci. Ben, surtout lundi matin, parce qu'on a quelqu'un qui a accepté de prendre de grossièrement 6h à 9h ou 10h, je ne sais plus. Il trouve le mardi matin de 6h à 7h. Le mardi soir de 6h à 7h. Voilà, il y a quelques créneaux. Je vais chercher le planning à la chapelle, mais il y a encore quelques créneaux qui sont vraiment délicats. Merci.
Je vais donner la parole à Jean. C'est parce que sur la paroisse, donc, il y a l'adoration continue, il y a le chapelet le vendredi soir à 18h, et il y a un groupe de louanges charismatiques le lundi soir.
Merci, alors je vais parler quelques mots. Je voulais d'abord vous dire merci Père Lionel et Père Mathieu pour avoir suscité en nous, dans la prière, ce cœur à cœur d'amour avec le Seigneur. Et j'ai d'ailleurs une très bonne nouvelle à vous rappeler, j'étais venu l'année dernière au mois d'octobre, et je vous avais parlé qu'il y a donc en effet un groupe de prière qui se réunit chaque lundi de 20h30 à 21h30. Dans la même chapelle que l'adoration, ce depuis plus de 20 ans, et y compris pendant les vacances. Le seul lundi de l'année où il n'y a pas de groupe de prière, c'est aujourd'hui, puisque nous sommes quasiment tous là. Je vous propose d'ailleurs que lève la main ceux qui font partie du groupe de prière charismatique. Vous devez être à peu près 20 ou 25 dans l'assemblée. Alors il s'agit donc d'un groupe de prière du renouveau charismatique du diocèse de Lille. Et nous avons rencontré récemment le père évêque Mgr Ulrich, qui nous a vivement encouragé à inviter autour de nous. Et moi je suis le berger de ce groupe de prière. Nous voudrions d'abord rendre grâce, car depuis 2 ou 3 ans, le nombre de participants a quasiment doublé. Nous sommes entre 25 et 30 chaque lundi, et comme je l'ai dit, bon nombre d'entre nous sont ici. Nous voudrions aussi vous dire que le Seigneur nous invite personnellement, chacun d'entre nous, à venir un lundi soir, comme le dit le Christ, venez et voyez. Alors, ce groupe charismatique, nous sommes surtout sur 3 dimensions. La première, celle de la louange. Louer Dieu inconditionnellement, parce qu'il nous aime inconditionnellement. Le louer par les chants, les témoignages de notre foi. La deuxième dimension, celle de l'invocation à l'Esprit Saint, qui souffle sur nous et le monde, qui libère tout notre être, qui nous aide à oser de temps en temps ouvrir la bouche pour chanter en langue, comme c'est dit dans la Bible, c'est pas toujours le plus facile, et qui nous donne la parole ce soir-là qu'il a choisi pour nous. Et enfin, la troisième dimension, c'est l'esprit familial, la fraternité des prières d'intercession entre nous, et la prière des frères pour ceux qui la veulent. Alors, Seigneur, oui, tout vient de toi. Merci parce qu'il y a dans cette paroisse différentes formes de prière complémentaires, comme par exemple l'adoration, le chapelet et ce groupe de prière. Merci de votre écoute et à bientôt à chacun.
Voilà. Vous savez que tout ce qui se passe dans cette paroisse, toutes nos activités missionnaires, tous les fruits qui sont dans vos cœurs, dans le cœur des paroissiens, les conversions, les redécouvertes, les approfondissements, tout part de la prière. Tout repose sur l'adoration, sur la louange, sur l'oraison, sur le chapelet et bien sûr sur l'Eucharistie.
Donc, il faut s'y engager, il faut durer, il faut franchir les étapes. C'était le but de cette soirée, de nous aider, de nous relancer. Et un grand merci pour l'ouverture d'être venu nous enseigner. Dédicace. C'est alors le livre à 15 euros.